Donc, nous voulons laisser de côté toute une série de prédications sur 2 Timothée, hein, sur les histoires des rois de Juda, mais nous concentrer tout simplement à ce qui s'est passé au moment où Jésus s'est offert sur la croix pour nos péchés. Et nous avons vu dans les séries précédentes que Jésus avait vécu 6 procès. 3 qui ont affaire avec les tribunaux juifs. Et nous avons commencé la dernière fois, au mois de mars, la première comparution de Jésus dans les tribunaux romains. C'était devant le gouverneur de l'époque qui s'appelait Pilate. Et nous allons y revenir. Dans notre esprit, mettons-nous comme si on était là. Et donc, Jésus maintenant est amené devant Pilate. Et ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas pour raconter l'histoire, mais reculer de ces séquences, même dans les petits détails de ces événements, regarder la majesté de Jésus dans cette situation. C'est ça qui nous préoccupe, dans le but de nous préparer pour la sainte scène qui suivra par la suite. Et donc, devant Pilate, lors de cette première comparution, il y avait 4 questions. D'abord, la première question, c'était les accusations que les Juifs portaient contre Jésus. Nous en avons parlé. Jean 18, versets 28 à 30. Et après, deuxième question, est-ce que Jésus était vraiment roi ou pas? C'est la question de Pilate à Jésus. Et maintenant Pilate retourne vers le peuple et dit, voulez-vous que je relâche le roi des Juifs ou pas? Ça c'est la troisième question. Et nous lisons une dernière question, mais d'où es-tu? Donc la première question que nous avons entamée la dernière fois, c'était les accusations que portent les Juifs contre Jésus. Et j'aimerais que vous regardiez votre Bible dans Jean chapitre 18, versets 28 à 32. C'est ce que nous avons vu, un aspect de cette question, la dernière fois. Nous lisons au verset 28, « Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe, n'est-ce pas, au prétoire, c'était le matin. » Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Verset 29, Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Et eux, ils répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Verset 31, sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » La loi juive. Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » 32, afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. À titre de rappel, comment s'était manifesté la majesté de Jésus dans cet incident. Nous avions dit que la majesté de Jésus était manifestée par le contrôle même de la façon comment il doit mourir. Il ne devrait pas mourir par lapidation parce qu'il était hors de question que Jésus est venu mourir comme un martyr. Il contrôlait même comment il devrait mourir. Mais Jésus doit être crucifié et non pas lapidé pour accomplir tout ce qu'il avait déjà prédit d'avance. Il est le contrôle de tout. Et donc ce matin, nous allons revenir à cette même question. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Et regardons un autre aspect. Et un autre aspect, c'est un regard que nous voyons du docteur Luc. Et c'est ce que je vous appelle à faire maintenant. Regardez Luc chapitre 23, versets 1 à 2. Hein? De quelle accusation portez-vous contre cet homme? Et Luc est le seul qui va nous donner en détail les accusations qu'il portait contre cet homme. Luc 23, versets 1 à 2. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. » Deuxième accusation. Troisième accusation, et se disant lui-même Christ, roi. On voit ici trois accusations qui nous est rapportées par le docteur Luc. Jésus a incité la nation à la révolte. Nous allons voir pourquoi ils ont réfléchi à cette accusation. Quel est le but? Quelle est la manigance derrière? Deuxième chose, accusation, Jésus a empêché de payer l'impôt à César, l'empereur. Et troisième chose, Jésus prétend être le roi des Juifs. Sans tarder, regardons maintenant la première accusation. Jésus a incité la nation à la révolte. Quel est le pourquoi de cette accusation? Il faut se mettre dans le contexte. La Palestine a été sous l'occupation romaine à cette époque-là. Et c'est la loi romaine qui gère tout et qui est la plus importante. Et comme les Romains ne reconnaissent aucun motif de crime religieux, n'oublions pas que ce sont des Juifs religieux qui l'accusent, qui l'amènent devant Pilate. Donc les Romains ne reconnaissent aucun motif de crime religieux. Alors, les chefs religieux sentaient la nécessité de faire apparaître Jésus au moins comme une menace à la souveraineté politique romaine. Voilà, derrière cette question, on va attendre et dire qu'il est en train de se révolter contre l'Empire romain et c'est la peine capitale. Deuxième question. Il l'accuse. Jésus a empêché de payer l'impôt à César. Vous voyez encore? C'est une révolte directement contre l'autorité romaine sous laquelle il cherche. Parce que la loi et les accusations motifs religieux, ça ne compte pas. N'est-ce pas? Donc il faut trouver quelque chose pour pouvoir l'accuser afin d'atteindre le but qu'il meure. Par la peine capitale. Regardez Marc chapitre 12 maintenant, versets 13 à 17, concernant cette accusation, deuxième accusation. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens, chez le chef religieux de l'époque, qui avait pouvoir sur la nation. Et les Hérodiens, ce sont des partis politiques, ce n'est pas des partis religieux. Des partis politiques qui défendent et qui soutiennent la dynastie hérodienne, qui est soutenue aussi par Rome. D'accord? Il y a un parti religieux, un parti politique, qui se mêlent pour le même objectif. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne. Car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?
Devons-nous payer ou ne pas payer?
Verset 15, Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Ils en emportèrent un denier. Un denier, c'est le salaire journalier à l'époque d'un soldat romain. Un denier, c'est le salaire journalier d'un soldat romain. Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en emportèrent un et Jésus leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, lui répondit-il. Verset 17, alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Quel est le sujet? Le sujet est celui du paiement des impôts à Rome. C'est ça ce qui est derrière. Hein. Rome qui est l'occupant. Donc c'est une question piège. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Donc ici, il est question d'une des multiples charges imposées par Rome. Il s'agit d'une taxe levée par individu. Par individu. Et vous savez, ce denier, je n'ai pas eu le temps d'aller sur Internet pour vous afficher là le denier de cette époque-là, hein, mais une face était frappée par Tibère et portait son effigie. Et tandis que l'autre face représentait Tibère, l'empereur, assis sur son trône, vêtu d'une tenue de sacrificateur. Quelle arrogance, n'est-ce pas? Vous pouvez aller sur Internet, hein, regardez ce denier. Donc, réfléchissons une minute. Payer ce denier, c'est une insulte pour lui, à double titre. D'abord, qu'est-ce qui se passe? C'est une insulte parce que payer le tribut avec cette pièce où il y a une effigie d'un empereur, c'est contraire à la loi juive. Tu ne te feras point d'image taillée et il ne doit pas, à cause du deuxième commandement, faire cela. C'est contraire à la loi qui leur a été donnée par Dieu. Une insulte parce que l'occupant romain, n'oubliez pas, les empereurs se prennent comme un dieu. Il y a le culte de l'empereur. Et donc, payer ce denier pour un juif, c'est quelque chose en train de... Ils sont en train d'idolâtrer indirectement de cette manière. Et donc, c'est une insulte pour eux. Qu'est-ce que dit Jésus? Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Intéressant. Rendez, le verbe rendre, hein, littéralement dans le grec, c'est restituer. Rendez, restituer. Ça veut dire, c'est une dette, c'est un impôt, et donc c'est pas facultatif. C'est une obligation de chaque individu de l'époque. Donc, alors, mettez-vous à la place des juifs pour les motifs que je viens d'évoquer religieux, que c'est pour eux, c'est intolérable de payer cela à double titre, parce que ça, c'est une valeur, une connotation, résonne chez eux, hein, ces deux aspects que je viens de vous évoquer. Parce que le peuple juif avait en horreur tous les impôts, parce que pour eux, ça sert à financer l'armée de l'occupant, l'armée romaine, les entretenir, etc. Et pour eux, hors de question. Mais ils n'avaient pas le choix. L'enjeu est ici crucial. L'enjeu est crucial. Attention, ils sont venus pour piéger par ces paroles, nous le dit le texte. L'enjeu est crucial. Pourquoi? Parce que si Jésus répond par non, est-il permis de payer ou non le tribut à César? On doit payer ou non? Si Jésus dit non, on ne doit pas payer cet impôt. Alors, rappelez-vous les deux groupes, un parti politique, les Hérodiens, et les partis religieux, les pharisiens. Alors s'il dit non, les Hérodiens vont accuser Jésus de trahison contre l'Empire romain. Ils arrivent au bout de leur peine et leurs astuces. Raisonnez bien, réfléchissez bien. Alors, si Jésus répond par oui, on doit payer cet impôt. Et sur ce qu'il a fait. Alors, ce sont les pharisiens qui vont accuser Jésus de déloyauté à l'égard de la nation juive. N'est-ce pas? C'est logique. Et donc, il va perdre le soutien des Juifs. Et nous lisons dans les textes des évangiles, et oui, il l'a rejeté, il en voulait, il voulait le faire mourir. N'est-ce pas? Mais je fais une parenthèse. Au-delà de cette circonstance, Jésus est en train d'enseigner quelque chose qui est valable pour nous aussi aujourd'hui. Quand il dit « donner à César ce qui est à César » et à Dieu ce qui est à Dieu, il enseigne de son époque et le principe est valable pour nous que tous les citoyens ont l'obligation de payer l'impôt au gouverneur qui les dirige, quel qu'il soit. Je vous laisse lire Romains chapitre 13, versets 1 à 7 chez vous. Notez-le. Cette obligation que nous devions nous soumettre à l'autorité qui nous gouverne. Regardez la même chose, 1 Pierre 2, versets 13 à 17. On n'a pas le temps de le lire, vérifiez. Mais au-delà de tout ça, retenons bien, l'enjeu est crucial. Parce que la réponse, s'il dit non, c'est les Hérodiens qui vont dire, et voilà. C'est une trahison contre l'Empire romain. S'il dit oui, chose qu'il a fait, eh bien, c'est les Juifs, les pharisiens, qui en subissent les conséquences. Et ils vont répliquer, n'est-ce pas? La question pour nous préparer à la Sainte-Seine ce matin, toujours la même question. Comment la majesté de Jésus est manifestée dans ce que nous venons de regarder, entendre comme déroulement des événements? Comment on voit la majesté de Jésus dans cette situation? Oui, la majesté de Jésus, face à cette première accusation d'avoir incité la nation à la révolte, n'est-ce pas, est manifestée par son omniscience. Pourquoi? Parce que nous avons lu tout à l'heure, si vous avez suivi, que face à des pharisiens et des hérodiens qui étaient venus lui tendre un piège en lui posant la question « Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Nous l'avons lu en Marc 12, verset 15, que connaissant leur hypocrisie, pourquoi me tentez-vous, leur dit-il. Comme si Jésus leur réplique, vous voulez attendre une réponse de ma part pour m'accuser de révolte contre l'Empire romain? C'est un peu ça ce qu'il dit. Et voilà la majesté de Jésus dans sa réponse. Écoutez, cela ne risque pas d'arriver. Car c'est moi qui est au contrôle de la situation et non pas vous, ni Pilate, ni César. Voyez, la majesté de Jésus, dans son omniscience, c'est la finalité et le but cherché derrière cette question. Et Jésus répond, non, c'est pas comme ça que les choses vont marcher. C'est moi qui est au contrôle, pas vous. Et je vois aussi sa majesté révélée par sa sagesse, en donnant la réponse appropriée, je dirais, qui va accomplir le plan de Dieu pour notre salut. Oui, en effet, le plan de Dieu est que Jésus soit mort. Pas pour quelqu'un qui se révolte contre l'Empire romain. Jésus soit mort pour nos péchés. Vous voyez ? En donnant la réponse appropriée ici, va donner le moyen pour accomplir le plan de Dieu pour notre salut. 1 Corinthiens 15, verset 3. Le plan de Dieu est que Jésus soit mort pour nos péchés selon les Écritures. Galates 1:4. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Victime, c'est un innocent, une victime innocente, pour payer la peine pour nous délivrer du péché. C'est ça le mot ici.
Donc il est hors de question que Jésus soit mort à cause de trahison ou révolte contre l'Empire romain. S'il disait non, il ne faut pas payer le tribut à César. Vous voyez combien la sagesse de Jésus manifestée ici. Que le but, c'est que le plan de Dieu soit accompli. Il est hors de question qu'il soit accusé et mort pour un motif politique. Il faut qu'il soit mort pour notre salut. Pour nos péchés. Ça, c'est le plan de Dieu. Magnifique, n'est-ce pas? Je vois, dans cela, c'est glorieux ce que le Seigneur fait. Il aurait pu perdre son contrôle dans la situation et dire n'importe quoi. Mais non, avec calme. Regardez le geste. Prends le denier. Montre-moi. De quoi. Et nous l'avons lu en détail. Le calme, il est au contrôle des choses, de la situation. Il a répondu, non pas pour lui. C'est intéressant, c'est glorieux d'être un héros politique, n'est-ce pas, de dire « Waouh, je me lève, je suis capable de révolter contre l'Empire romain ?» Pas du tout. Humblement, il est allé jusqu'au bout, accepter de mourir pour nos péchés, et non pas pour faire tomber l'Empire romain. Troisième accusation. Jésus prétend être le roi des Juifs. Lisons Jean 18, verset 33 à 38. Verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Vous voyez ? Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit ?» On va revenir pour l'explication du texte après. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça ? « D'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, et qu'as-tu fait ?» Verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Deuxième question, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Jésus, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Comme s'il était intéressé. Pas du tout. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Mais comme c'était parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, hein, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? C'est intéressant que Pilate est très préoccupé par cette question. C'est sérieux pour lui. Es-tu le roi des Juifs ? Pourquoi c'est important pour Pilate cette question ? Parce que rappelez-vous que la Pâque, c'est une des fêtes que les Juifs célèbrent à Jérusalem. Depuis fort longtemps. Et quand les Juifs de partout viennent à Jérusalem, la population sera cinq fois plus que d'habitude. Donc il y a un attroupement de foule à Jérusalem. Et alors, il se peut qu'il arrive un imposteur juif qui pouvait provoquer facilement une émeute ou une rébellion contre Rome, n'est-ce pas? Et donc c'est important en tant que gouverneur de savoir qu'est-ce qu'il prétend cet homme. Il veut être roi. Et oui, parce que la saison de la Pâque est souvent marquée par de fortes attentes sur la venue du Messie pour les Juifs. Et regardez la réponse de Jésus. Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? En réalité, directement, il veut dire, quel genre de roi penses-tu que je suis? Mais quel genre de roi penses-tu que je suis? Est-ce que je suis un roi romain? Ou est-ce que je suis un roi juif? J'ai transcrit, ici, retraduit la question. Pourquoi Jésus pense et dit les choses de cette manière? Eh oui, parce qu'il y a une implication, comme je viens de voir avec vous, avec les Hérodiens et avec les Pharisiens tout à l'heure. C'est la même chose qui se répète. Hein? Quel genre de roi penses-tu que je suis? Un roi romain ou un roi juif? Deux possibilités. Si Pilate pense à un roi romain, alors Jésus sera considéré comme un rebelle. Alors là, un rebelle contre l'Empire romain, et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Mais si Pilate considère du point de vue juif comme un roi juif en tant que le Messie, alors les questions politiques pourraient être mises de côté. Il n'y a pas de menace pour l'Empire. N'est-ce pas? Tout simplement. Mais la sagesse de Jésus se voit ici. Il n'élude pas la question. C'est lui-même qui oblige Pilate de clarifier ses pensées. On dirait, quand je lis le texte, je souris un peu, on dirait que c'est Pilate qui est jugé et non pas Jésus. Je le vois comme ça quand je lis, réfléchis sur ce texte. Et regardez la réponse de Pilate à Jésus, verset 35. Moi, suis-je juif, moi? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, et qu'as-tu fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Pilate rend les chefs juifs responsables de ce qui arrive. Ils ont rejeté leur Messie, non seulement devant Dieu, mais aussi devant Pilate, ce païen. Et en disant, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Pilate veut comprendre, hein? Pourtant quand même, mais pourquoi les Juifs lui ont livré Jésus? Il veut comprendre, pourquoi les Juifs lui ont livré Jésus? Est-il vraiment une menace pour Rome? Et la réponse de Jésus arrive maintenant. Et ça rassure Pilate. Verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. N'est point d'ici-bas. Oui, il est vrai. Il dit vrai. Il dit vrai. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous tout au début de son ministère, il vient d'accomplir un miracle somptueux. Il avait nourri 5000 hommes avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Et rappelez-vous, en ce moment-là, au début de son ministère, à cause de ce miracle, les gens voulaient le faire roi. Rappelez-vous de cela. Et qu'est-ce que Jésus disait? Jean 6, 15. Regardez. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne. Seul. Il dit vrai. Et pas seulement il dit vrai, il l'a fait. C'est pas son but. Et pourtant, il y avait une occasion, tout au début, grâce à ce miracle spectaculaire. Non. Nous lisons tout simplement, il se retira. Aller tout seul sur la montagne. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, Gédéon, aussi qui voulait que les gens qui soient rois refusaient aussi, n'est-ce pas? Et Jésus explique ici que son royaume a son origine ailleurs. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et oui, parce que Jésus a son origine ailleurs aussi. Il vient du ciel, il est Dieu. Alors, il n'avait pas d'armée pour combattre ou lutter pour lui. Mes serviteurs auraient combattu pour moi, pour qu'il ne soit pas livré, comme il vient de dire, par les Juifs à Pilate. Son royaume n'est pas un royaume qui essaie de conquérir d'autres royaumes terrestres. L'intérêt de son royaume est spirituel. Et c'est pour cela qu'il va parler beaucoup de vérité
Dans le passage, combien de fois c'est rappelé?
Il est venu pour révéler la vérité.
Il faut se procéder
pour que Dieu lui donne l'occasion de manifester la vérité.
Même en étant incriminé comme un coupable. Oui, son royaume est spirituel. Jésus règne dans le cœur de ses disciples. Son royaume est tout endroit où des personnes lui font confiance et se soumettent à sa souveraineté. Ici, dans cette salle, il y en a plein de personnes où Jésus est le roi dans leur cœur. Parce qu'ils ont accepté Jésus comme leur roi. Ils ont mis la confiance en lui. Et ça, c'est ce que Jésus est en train de faire encore aujourd'hui. Il amène à lui, à cause de la prédication de la parole, que l'Esprit agit dans le cœur pour que les gens cèdent leurs armes de rébellion à Dieu et disent, je te confie ma vie, sauve-moi de mes péchés. Et en ce moment-là, Jésus fait son règne en nous par le Saint-Esprit. Oui, c'est le cas aujourd'hui, mais la Bible dit, un jour viendra visiblement, il va établir sur la terre son royaume, son règne de justice et de paix. Pour l'instant, invisible dans le cœur, mais viendra le jour, ce sera visible. Ce royaume de justice sur la terre. Je vous fais référer Daniel 7, versets 13 à 28, pour ce règne futur de notre Seigneur. Oui, aujourd'hui, je peux dire Jésus est à la conquête des cœurs, et son royaume est actif dans ce monde. Et Jésus ne le cache pas. Nous le voyons ici, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi, répondit, et Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Il ne le cache pas. Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Je suis né. Jésus était né roi, n'est-ce pas? Matthieu 2, verset 2, rappelez-vous des mages qui sont venus pour adorer ce roi qui vient de naître. Nous lisons en Matthieu 2, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc il y vient qu'on dit, je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Oui, Ésaïe 9, versets 5 et 6, c'est une prophétie qui disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et là, on parle bien d'un roi parce que la domination reposera sur son épaule. Et qui est cette personne? C'est Jésus lui-même. Jean 1, 49, Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » C'était la confession de Nathanaël à Jésus quand Jésus lui dit qu'il le voyait sous le figuier avant même que Philippe l'appelait à rencontrer Jésus. Hein, n'est-ce pas? Jésus ne le cache pas, mais explique que son royaume est celui de la vérité. Écoutez bien. Jésus ne cache pas, mais explique que son royaume est celui de la vérité, même en étant accusé de crime. Jésus donne à Pilate l'occasion de venir à la vérité. Oui, Jésus rend témoignage à la vérité devant Pilate, comme devant tous les hommes, c'est parce qu'il leur dit la vérité, et alors ils l'ont rejeté. C'est ce que j'avais dit ce matin. Jésus est un signe de jugement. Quand on parle de Jésus, il y aura d'un côté ceux qui écoutent, qui vont prendre position et croire en Jésus. Il y en a de l'autre côté qui vont le rejeter. C'est exactement ce qui se passe. Pilate ne voulait pas entendre la vérité. Les religieux juifs ne voulaient pas entendre la vérité. Ils voulaient le crucifier. Oui, Jésus rend témoignage à la vérité devant Pilate, comme devant tous les hommes, c'est parce qu'il leur dit la vérité, et alors ils l'ont rejeté. Oui, Pilate n'est pas parmi ceux qui écoutent la voix de Jésus, et comme des juifs contemporains de Jésus, à qui il adresse des réprimandes suivantes. Et ça, c'est une réprimande sévère. Jean 8, 45 à 47. Je vous le lis. « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Chers amis, quand on parle de la vérité sur la personne de Jésus, quand on parle de l'évangile, on parle de Jésus, on est responsable. On ne peut pas être au milieu d'un côté du Jésus, de l'autre côté pas de Jésus. Soit on est pour Jésus, soit on est contre Jésus. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Et vous savez, depuis Siméon qui avait prophétisé cela, et jusqu'à nos jours, les gens entendent la vérité, ce n'est pas parce qu'ils manquent d'informations sur la vérité qu'ils rejettent la vérité. Ce n'est pas manque d'informations, ni manque de prédication, ni manque de clarification. Mais tout simplement parce que leur cœur avait déjà résolu, déterminé de rejeter Jésus, quoi qu'ils entendent. Et c'est le cas aujourd'hui. Et j'imagine dans cette salle aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont résolument déterminé leur cœur de rejeter la vérité, ce à quoi ils sont destinés. Mais Dieu vous tend la main. Venez vers Jésus. Donnez votre vie à lui. C'est le message aujourd'hui. Comment la majesté de Jésus est manifestée dans cette troisième accusation? Comment la majesté de Jésus est manifestée dans cette troisième accusation? Es-tu roi, toi? Roi ou pas? Ça, c'est la question. Je vois la majesté de Jésus manifestée ici de la manière que Dieu a permis que la décision la plus coupable, la plus fatale que les hommes aient jamais prise, a permis de magnifier la vérité et de prouver la culpabilité de ces personnes qui ont rejeté Jésus. Et cela a été confessé par la bouche de Pilate lui-même, leur culpabilité. Nous lisons, je ne trouve aucun crime en lui. Je ne trouve aucun crime en lui. Par cette décision horrible, coupable, c'était nécessaire pour que Pilate lui-même confirme la culpabilité de ceux qui l'ont rejeté parce qu'ils trouvent que cet homme est vrai. Il est innocent. Je ne trouve aucun crime en lui. Deuxième chose, si on parle du procès, je vois aussi que les procès qui auraient pu détruire le message radical de Jésus, ces procès qui auraient pu détruire le message de l'Évangile, étaient précisément ceux qui prouvaient que le message est vrai. Ça, c'est la majesté de Dieu. À travers une accusation, un procès monté de toutes pièces. Oh. Aucune accusation qui ne tenait. Ce procès aurait pu détruire le message radical de l'Évangile, la vérité, mais au contraire, ces procès ont prouvé que ce message est vrai. Aujourd'hui aussi, il est vrai. De son royaume et de la vérité. Chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là, mais pensez à ce que nous venons de voir, la majesté de notre Seigneur qui contrôle toutes choses. Des procès injustes ont été laissés par Dieu faire pour qu'on manifeste la vérité de celui à qui on croit. Jésus, son message. Et c'est le message que nous avons aujourd'hui à continuer à propager aussi. Il est vrai, il est la vérité. Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.